Made in France Première Vision, en partenariat avec l'Institut français de la mode, présente les 5e rencontres du Made in France. À l'occasion de la rentrée, ce cycle de 6 tables rondes se penche sur les nouvelles approches collaboratives mises en place par les acteurs hexagonaux des secteurs du textile, du cuir et de la confection. Chapitre 5. Meetup R3Z Lab. Compétitivité, production et marché du Made in France. Introduit par Nelly Rodi et animé par Daniel Cloutier.
Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Nelly Rodi et je suis coprésidente avec Elisabeth Ducoté, la présidente de Tuan du R3Z Lab. Et nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus aujourd'hui. Merci à Daniel Cloutier qui organise tous nos meet-up et qui bien sûr fait un travail formidable et qui vous a organisé aujourd'hui ce chapitre sur la compétitivité, la production, les marchés du Made in France, bien évidemment, d'une somme dans ce salon. C'est quoi le R3Z Lab ? Juste un mot pour vous le rappeler, cela fait 20 ans maintenant qu'avec Elisabeth Ducoté, nous avons été contactés par le ministre de l'Industrie de l'époque et qui nous a demandé de travailler en réseau avec les industriels pour essayer de réfléchir à des éléments qui n'étaient pas forcément dans la conduite, dans la ligne de conduite traditionnelle des industries. Et nous essayons, avec le dernier programme que nous avons présenté avec Mutation, nous essayons justement de réfléchir un peu différemment, de se mettre dans des rencontres improbables, de se mettre avec un regard différent peut-être d'un industriel traditionnel. Et c'est ce qui a fait la longévité de la longévité, c'est bon ? Oui, du R3Z Lab et des équipes qui travaillent autour. Donc Daniel, merci encore pour ce travail. Merci à nos invités Pierre de Chanville, Damien Durand, Grégory Marchand, Christine Montard et Basile Riquier qui sont avec nous. Deux femmes quand même sur le plateau et pour
trois
quatre
avec
hommes.
Vous.
Donc vous allez laisser parler les femmes, messieurs. Voilà. Et je vous passe, Daniel, à vous.
Ok, merci Nelly. Bon, on va commencer donc, sans plus attendre. Merci donc à vous d'être venus pour partager avec nous cette session. J'espère qu'on va avoir le temps non seulement d'écouter, mais de vous entendre, vous. Ce que je voulais dire en introduction, c'est donc qu'on essaie de s'inscrire un peu, on s'inscrit de fait dans la continuité des travaux de l'année 2020, qui était notamment un hackathon auquel vous avez peut-être assisté l'année dernière sur ce salon. Et puis aussi aux travaux très intéressants qu'a mis en lumière, disons, le rapport du comité stratégique de filière Modelux, qui est vraiment un document intéressant que vous trouvez sur le site du CSF et qui vaut vraiment le coup d'être regardé, avec notamment les 36 propositions qui ont été entérinées et portées par Guillaume de Seyne, qui en est le président. Donc je vais revenir, avant de passer et de présenter nos intervenants, je veux revenir juste sur deux éléments qui me semblent être tout à fait pertinents pour aujourd'hui. La première chose, c'est que, évidemment, la France, c'est cher. On a des salaires, on a un bon niveau de vie et quoi qu'en disent les gilets jaunes, on est effectivement beaucoup plus cher à juste titre que beaucoup de pays et la plupart de nos pays concurrents sur la confection et sur le textile. Mais ceci dit, on a des prix de revient livrés qui restent quand même évidemment très importants du fait de ce poids de la main-d'œuvre, à la fois dans le textile et surtout dans la confection, mais il y a quand même des éléments hors coût de revient qui nuancent beaucoup le tableau. Et je voulais les partager avec vous parce qu'ils sont très, très frappants. Le résiduel, c'est les invendus. Les invendus, alors si vous êtes... Alors vous avez différentes options. La première option, c'est France à la demande. France à la demande, ça veut dire des fabrications on demand, dont, et on aura... Pierre de Chanville de Tekin qui va pouvoir vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Ça, ce sont des estimations, hein. Ce ne sont pas les chiffres qui sont obtenus par constatation et par analyse statistique. C'est vraiment des scénarios avec des produits déterminés, mais ça donne quand même des ordres de grandeur qui nous paraissent réalistes et qui sont très frappantes. Très frappant. Donc, la France à la demande, vous avez 2% d'invendus, alors que si vous travaillez en Asie classique, vous en avez 25. A contrario, sur la dernière colonne, qu'est-ce que vous ratez si vous êtes en Asie classique ? Ben, vous ratez la possibilité de faire des réassorts qui vont aller jusqu'à vous rapporter 25% de ventes supplémentaires. Et entre les deux, vous avez les écoulements avant solde et la démarque moyenne, où vous voyez qu'il y a un continuum entre France à la demande, la France classique, c'est-à-dire la France qui travaille en production, disons, avant vente et non pas sur commande. Et puis, vous avez l'Euromed à la demande, l'Euromed classique. Et donc, les chiffres, et bien évidemment, vont dans le sens qu'on connaît. Donc, ce sont des ordres de grandeur qui remettent en cause évidemment, le différentiel, le massacre qu'on peut observer au niveau des prix de coûts de main-d'œuvre. Et je voudrais aussi montrer un autre. Voilà. Le rapport du CSF a mis en exergue aussi des choses qui sont très intéressantes, je trouve, et qui sont particulièrement pertinentes aujourd'hui, après le Covid. Donc, ce que vous allez avoir. Alors, juste un mot, parce que je vous vois saisir vos appareils photos. Tout ça sera sur le site du R3i Lab et vous pourrez le télécharger, vous pourrez prendre ce que vous voulez et vous aurez également par le salon MIF un podcast de tout ce que l'on se raconte. Voilà. Les choses qui sont extrêmement intéressantes, je trouve, c'est le besoin d'investissement dans des nouveaux outils productifs que vous voyez en haut parce qu'on va parler de solutions justement à ce gros problème d'investissement, notamment pour les PME de notre secteur. Et on va parler aussi de l'intégration verticale où des choses sont très, très fortement en train de changer, pas forcément sur de l'intégration pure et dure, mais sur un système qui est beaucoup plus intégratif. Et au niveau des opportunités, elles sont toutes particulièrement cruciales et ouvertes aujourd'hui. Une demande de proximité et de durabilité des consommateurs, pardon, une évolution des modèles d'achat, des nouvelles technologies qui sont à la disposition de la filière, une mise en réseau des acteurs et un potentiel de production vraiment rapide. Donc, je crois que c'est bien d'avoir toutes ces idées et tous ces points d'accroche en ligne de mire parce qu'on peut vraiment agir aujourd'hui au niveau de la filière pour cette réindustrialisation de la France, et plus largement de l'Europe, auquel on est tous attachés. Que voulais-je dire d'autre ? Je voulais vous dire que maintenant, on va peut-être présenter chacun en une minute chrono, si vous le voulez bien. Et après, on passe aux questions. Pour les questions, on va procéder par différents thèmes. On va d'abord avoir les consommateurs. Et là, on va avoir beaucoup Christine qui va nous parler, Christine Montard. Ensuite, on va remonter un peu dans la filière et on va avoir les retailers, la distribution. Et ensuite, on va parler plus avant de la filière pour voir comment elle a réagi finalement au Covid. Voilà. Donc, Pierre, tu es à côté de moi, tu commences, si tu veux bien. Puis lui, il est concis.
Merci pour cette présentation, ça met la pression. Donc Pierre de Chanville, j'ai cofondé Tekin il y a 4 ans avec Donatien Mourmand et ce à quoi nous nous attachons le plus sur vraiment un double angle à la fois organisationnel et d'automatisation et de digitalisation, c'est de permettre aux marques et à l'ensemble de l'écosystème textile de basculer massivement dans une ère de la production à la demande parce que c'est le levier principal de relocalisation massive, encore une fois, j'insiste sur ce mot, du textile.
Damien.
Merci Daniel, bonjour à tous. Donc, je suis Damien Durand, je suis directeur du service économie de la CELC, la Confédération européenne du lin et du chanvre. Donc moi, je représente plutôt aujourd'hui le côté fédération sur la question. La CELC, c'est une organisation agro-industrielle. On représente l'ensemble au niveau européen de la filière lin, c'est-à-dire de l'amont, l'agriculteur, celui qui fait vraiment pousser la paille, à l'aval, c'est-à-dire les filatures et le tissage pour l'ensemble de cette fibre. On est présent sur 14 pays en Europe. On existe depuis plus de 70 ans maintenant. Et donc voilà, donc moi je vais venir effectivement vous parler des spécificités qui existent peut-être sur le lin, cette fibre naturelle et végétale, donc qui a sans doute particulièrement la côte. Vous avez sans doute vu, j'imagine, pas mal de sujets ces temps-ci qui parlent de cette fibre et qui a notamment comme spécificité, depuis assez longtemps, d'être une excellence française. Je pense qu'on en reparlera pour le coup, mais historiquement parlant.
Autre excellence, UTT.
Bonjour à tous, Grégory Marchand. Donc moi, je suis filateur teinturier dans un de mes métiers, parce que je suis aussi, on va dire, créateur d'une activité dans les textiles techniques qui s'appelle Imatech, avec une reprise d'une société qui s'appelle Créafibre. Je travaille aussi dans le monde de l'Internet avec Denis, mon cousin, nous travaillons à deux ensemble. Et voilà, on est des passionnés du textile et passionnés de tout ce que l'on entreprend. Au niveau, on va dire, autre que l'entreprise, j'ai des responsabilités au niveau de l'UIT. Donc, je suis vice-président de l'UIT. Je suis un des représentants de l'industrie française à Bruxelles, au niveau d'Euratex, et membre du bureau de l'UIT du Nord, l'UITH.
Voilà pour moi. Et tricoteur, tu es tricoteur.
Et je suis tricoteur parce que dans une des passions et des projets, nous avons monté un atelier de tricotage et nous sommes des tricoteurs depuis maintenant 2 ans sur un projet dont je vous partagerai beaucoup de choses tout à l'heure.
Christine. Bonjour à tous, je suis Christine Montard, je suis directrice des activités et de l'analyse à l'IADS, qui est l'International Association of Department Stores. C'est une association qui existe depuis 1928 et qui rassemble une douzaine de membres de tout pays. Pour vous en citer quelques-uns, nous travaillons avec les Galeries Lafayette, avec SKP en Chine, avec El Corte Inglés en Espagne, avec Breuninger en Allemagne, ou Magasin du Nord au Danemark, ou encore, par exemple, Palacio de Hierro au Mexique. Nous apportons à nos membres, en fait, on agit un peu comme une sorte de think tank opérationnel et on essaye de leur apporter une aide, un espace de réflexion par rapport aux problématiques, et elles sont nombreuses, auxquelles ils doivent faire face encore plus après le Covid.
Et Basile ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Basile Riquier, cofondateur de 3DTex. Avec mes deux associés, Marc Sabardeil et Gwendal Michel, nous avons monté un atelier de tricotage à Saint-Malo, qui est un atelier de toute dernière génération qui permet de fabriquer des tricots en 3D, sans couture, avec une technologie zéro déchet. Nous avions pour souhait de relocaliser de l'activité en intégrant la RSE vraiment au cœur même de l'entreprise et de répondre aux enjeux du moment qui sont réactivité et la démocratisation vraiment de la fabrication française, c'est-à-dire proposer à nos clients des prix qui sont le plus abordables possible. Notre objectif, à horizon 5 ans, c'est d'avoir 30 métiers à tricoter avec une capacité de fabrication qui est de l'ordre de 300 000 pièces par an et de proposer des prix qui vont être compétitifs avec la montée en charge, avec la zone Euromed, c'est-à-dire principalement la Turquie et le Maroc, tout ça dans une fabrication française en prenant en compte la RSE.
Et si vous voulez voir les très belles choses qu'ils font, ils exposent là-haut en...
C10, et C10. On est les tout petits poussets de ce salon. Puisque
mais il y a un très joli pull orange.
Ça fait uniquement deux mois qu'on est rentré dans l'atelier, et ça fait désormais 3 semaines qu'on est rentré en phase de production. Donc on s'apprête à livrer nos toutes premières commandes.
Ok, bon, merci à tous. Donc je vous propose, on commence par les consommateurs. Donc à tout seigneur, tout honneur, Christine. Du point de vue donc consommateur, et pas vraiment en tant que grand magasin, mais ce que tu perçois des consommateurs et de leurs attentes en France et à l'étranger, quelle est la perception de ce qui est fabriqué en France ?
Alors, effectivement, pour répondre à cette question, il faut vraiment différencier la clientèle française de la clientèle internationale et aussi savoir où est-ce que cette clientèle internationale consomme. Je vais commencer par la clientèle française. Ce qu'on voit quand on regarde quelques chiffres, c'est que en dépit du déclaratif des consommateurs qui, surtout après le Covid, envisagent de consommer plus local, plus responsable, etc., ça ne se traduit pas encore dans les faits. Pour leur grosse majorité, en fait, par exemple, pour les 30-50 ans, en fait, ils considèrent le Made in France comme entrant à 6% dans leur décision d'achat. Donc, c'est quand même très peu. C'est un peu plus quand on passe sur la tranche 51-65 ans, où là, Le Made in France représente 18% de l'intention d'achat. Mais ça reste, donc, comme vous voyez, des chiffres, surtout plus on se rapproche des jeunes générations, des chiffres assez faibles. En revanche, il faut quand même nuancer ces propos, parce qu'on voit que quand on regarde des marques françaises qui ont un outil de production en France, et je pense notamment à des marques comme Aigle ou comme Lacoste, eh bien, la clientèle de ces marques est extrêmement attachée au Made in France, extrêmement, pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment la qualité. La durabilité, qui est en plus un sujet à l'heure actuelle évidemment important. Et aussi, et c'est là pour moi le point le plus important par rapport au Made in France, c'est le savoir-faire. Quand Aigle fabrique une botte en caoutchouc en France, le consommateur sait très bien qu'il y a un vrai savoir-faire derrière, que c'est des bottes qui vont rester dans la famille éventuellement pendant plusieurs générations. On achète une paire de bottes Aigle, on ne rachète pas ce genre de produit, on le garde pour sa qualité. Pareil pour Lacoste qui a un outil de production à trois pour le piqué de coton. Donc pour des marques comme ça, le consommateur se montre très... très attaché au Made in France, parce qu'il sait reconnaître un savoir-faire.
En France ?
En France, absolument. Pour la clientèle étrangère, c'est vrai que la clientèle asiatique et européenne, sur le luxe, réclame du Made in France, et c'est évidemment quelque chose qui est attaché au statut de certains produits de luxe. Quand elle consomme à l'étranger, il faut, je pense, différencier aussi si le consommateur achète quelque chose qui est made by ou made in. Ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et dans beaucoup de cas, il s'agit quand même d'un achat qui est très lié au made by. Mais en tout état de cause, la clientèle étrangère reste attachée aux marques françaises et par ricochet au made in France, parce qu'il y a une question de statut, de distinction, de différenciation par rapport au reste des produits et par rapport aux autres catégories de population. Et je pense qu'il faut aussi parler de le consommateur étranger qui vient consommer en France, du luxe notamment. Il vient acheter au-delà du Made in France, et c'est ça qu'il va regarder plus, davantage, c'est l'expérience en fait. Acheter à Paris un sac Louis Vuitton, c'est une expérience. Ou n'importe quelle autre marque. Donc voilà, moi, les différences de perception des consommateurs que je ferais dans les grandes lignes au sujet du Made in France.
Mais ce que tu me disais, c'est que quand on échangeait avant cette réunion, c'est de dire que même à l'étranger, il y a quand même une différence entre les jeunes, c'est-à-dire les acheteurs de demain, et les acheteurs acquis qui sont plus anciens.
Alors, il y a aussi effectivement une différence importante à faire entre les jeunes générations, c'est-à-dire les millennials et les Gen Z, par rapport aux générations plus anciennes. On peut observer sur pas mal de marchés, je pense que par exemple la Corée du Sud ou le Japon sont des bons exemples, où il y a vraiment une catégorie de la population qu'on pourrait appeler « old money ». Donc cette population va rester attachée très au Made in France, parce que ces clients-là savent le savoir-faire qu'il y a derrière, ils connaissent les produits, souvent ce sont des clients qui sont extrêmement fidèles aux marques, ce n'est pas des clients zappeurs comme les jeunes générations. Donc le facteur Made in France pour eux ajoute en différenciation par rapport à une autre marque de luxe qui ne fabriquerait pas en France. Évidemment, il n'est même pas nécessaire de mentionner que ce sont des générations un peu anciennes, donc qui sont amenées à disparaître. La grosse différence, toujours sur la Corée et le Japon, avec les jeunes générations, c'est que ces jeunes générations sont à la recherche, je parle pour le luxe et le premium, en tout cas, d'items très fashion. La question du Made in France n'est absolument pas un sujet. C'est vraiment pas quelque chose qui les intéresse. L'avenir se joue avec ces générations, évidemment. Donc là, il y a beaucoup de travail à entreprendre en termes de storytelling. Donc c'est aussi un peu la responsabilité des marques, mais je pense que c'est aussi la responsabilité de la filière d'être capable en amont de communiquer, d'avoir un discours un peu cool qui parle à ces jeunes générations. Et je discutais en préparation de cette conférence aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un chez Aigle qui me disait que dès lors que
sur des bottes en caoutchouc, puisque c'est le meilleur exemple pour eux, dès lors qu'il y a un plan de communication et marketing avec un message un peu cool qui se raccroche, qui peut raccrocher les wagons avec cette jeunesse, les ventes fonctionnent très très bien sur les jeunes. Mais il faut être capable d'adresser un message qui parle à ces jeunes. Alors ça pourrait venir de la sustainability, parce qu'il y a quand même un enjeu en France, enfin il y a des perspectives de développement sous cet angle. Il peut y avoir plusieurs options marketing, mais en tout cas, c'est vraiment très important, je pense, et ça doit se jouer. Tous les acteurs qui interviennent sur le Made in France, du haut de la filière jusqu'au retailer, il faut qu'ils rendent ce message du Made in France cool.
Storytelling. Ok. Est-ce que, indépendamment du storytelling, les certifications, les labellisations, alors qu'on parle d'origine ou qu'on parle de promesses, de garanties, qu'est-ce qui fait mouche auprès du consommateur ? Et là, on va faire un petit tour, parce que vous avez aussi des retours consommateurs.
Ce qui fait mouche, c'est la qualité et le savoir-faire, très clairement.
Indépendamment du label ou...
Le label est important, mais je pense que c'est ce qui guide l'achat du consommateur, ça va être la qualité, la durabilité et le savoir-faire.
D'accord, qui est promis par cette notion de Made in
France. Oui, qui est promis et qui est en plus, je peux reprendre l'exemple, les marques comme Aigle ou Lacoste, c'est très clair, le client revient acheter son polo en piqué de coton Made in France, ça crée une vraie fidélité. Oui. Et les deux sont imbriqués. Le fait que y ait ce savoir-faire, cette qualité est imbriqué au fait que ce soit Made in France, évidemment.
Ok. Damien, comment est-ce que tu réagis à ça pour les marchés du lin? Est-ce que le label, la certification, la marque, comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui accroche pour vendre du Made in France?
Alors, dans la question du lin, la question d'une excellence française, elle est quand même particulière. Pourquoi ? Parce que l'expertise française dans le domaine du lin, alors non seulement elle est historique, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on fait du lin à tous les niveaux de la chaîne de valeur, notamment dans le nord de la France et en Normandie. En gros, sur une bande, on dit au niveau européen qui vend de Caen à Amsterdam. Donc, c'est vraiment quelque chose déjà d'historique. Je crois qu'on va parler de réindustrialisation tout à l'heure. Parmi les projets de filature lin qui s'ouvrent en France, une d'entre elles est portée par une entreprise qui s'appelle Safilin et dont les activités ont commencé à la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez, c'est à la fois de l'histoire et à la fois du futur. Et l'autre spécificité de la France dans le domaine du lin, c'est une position, je ne dirais pas hégémonique, mais très, très majoritaire. S'il fallait retenir juste un ordre d'idée, je ne vais pas trop vous assommer de chiffres, mais celui-là est important, 80% du lin dans le monde est fait en Europe, 80% du lin fait en Europe est fait en France. Alors tout ça pour dire quoi ? Pour dire que partout où que vous alliez...
Agriculturellement parlant.
Agriculture et fibres, c'est-à-dire et la fibres. Pousse du lin et l'extraction de la fibre, ce qu'on appelle le teillage, qui est une activité industrielle, mais qui sont deux activités souvent concomitantes géographiquement. Donc ça veut dire partout que vous alliez dans le monde où vous voulez acheter du lin, vous allez trouver aisément, dans cette offre de lin, du lin européen et du lin français, qui commence d'ailleurs de plus en plus à être notamment certifié par une labellisation qu'on appelle European Flax, qui garantit une origine européenne du lin. Donc ça, c'est un élément important. À la SELC, nous avons lancé cette année une étude qui s'appelle le baromètre du lin et qui visait à mesurer, dans un certain nombre de marchés...
Avec l'IFM,
en collaboration avec l'Institut français de la mode, avec lequel nous avons une collaboration ancienne et fructueuse, effectivement, c'est à préciser. Nous avons lancé cette étude visant à mesurer la perception du lin dans un certain nombre de marchés, en Inde, en Chine, en Amérique du Nord et dans plusieurs pays européens. Il est ressorti de manière systématique et assez régulière d'ailleurs que, d'une part, le lin était bien perçu comme une fibre majoritairement européenne, pas exclusivement, mais là c'est une autre question, et donc française, ça c'était bien perçu, et il était également perçu que le lin était une fibre qui coûtait plutôt plus cher que les autres fibres courantes et que cette différence de prix était justifiée. Donc la dimension européenne et française et la dimension plutôt haut de gamme, on va dire, de cette fibre est bien perçue dans l'ensemble des marchés.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'alignement des planètes quand on parle de lin et de Made in France, parce que ça veut dire que les deux notions se renforcent mutuellement en quelque sorte. Ça répond un peu à ça que je voulais vous montrer, qui est cette espèce de déficit de communication avec 83% des Français qui estiment que les marques ne communiquent pas assez. Alors c'est tout produit confondu, hein, c'est LSA qui sortait ça. 66% que les marques ne sont pas légitimes quand elles communiquent sur le Made in France, ça veut dire on n'a pas confiance. chance. Et 50% pensent que les signes de fabrication ne sont pas assez mis en avant. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là, storytelling, information, etc. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très important de le souligner parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Quelle est votre expérience aux autres en ce qui concerne les labellisations, certifications par rapport aux consommateurs?
Bah, tu vois, chez nous, au niveau de la filature et de la teinturerie, tous les produits sortent avec des normes. D'abord, la première norme, ça va être les certifications ISO, d'accord, donc aussi bien la 14000 que la 9000. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est les certifications de base que je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des industriels ont. Et après, on a des spécifications, vraiment des points très spécifiques par produit. On va aller sur les produits GOTS par rapport à des cotons, on va aller par rapport à des laines, et on va à chaque fois retrouver des certifications jusqu'à des certifications spécifiques au retailer. Inditex va arriver avec Inditex va arriver avec ses audits qu'il vient faire dans nos usines et qu'il fait partout dans le monde, et ses audits qui sont aussi bien des audits sur les méthodes de fabrication, mais des audits sociaux. Ça veut dire qu'ils vont aller étudier par des cabinets français notre convention professionnelle, même si elle est très spécifique à notre région, pour aller regarder dans les détails et aller contrôler ces choses-là et nous donner la certification ou pas. Donc ça va très loin.
Mais c'est-à-dire que ce ne sont pas des certifications d'origine, ce sont des garanties en quelque sorte qui concernent soit le côté environnementalement friendly ou
le côté social, le côté environnemental, voilà.
Et c'est comme ça que tu vends du
Made in France. Tous les types de produits qu'on va utiliser. Aujourd'hui, on va dire un teinturier, il est lié à tous ses fournisseurs parce que il y a une traçabilité qui existe pour savoir la totalité des produits qu'on utilise. Et si tu veux avoir l'assertif EcoCert, voilà, pour des points très spécifiques comme pour GOTS, tu as besoin de pouvoir prouver que tel type de fil a été teint avec tel type de colorant, etc. etc., etc. Aujourd'hui, ça va très très loin. Nous, en tant qu'industriels, sur la partie filature et teinturerie, nous sommes 100% de nos produits sont avec un label à un moment ou un autre.
D'accord. Est-ce qu'il y a des labels d'origine parmi les autres? Non.
Alors, nous, on est plutôt observateurs en fait dans notre position de plateforme de production, puisque on reçoit les informations d'un certain nombre de labellisations, que ce soit sur les matières, que ce soit sur les ateliers, enfin de toutes les parties en fait de la production, et on va les forwarder à la marque et essayer également dans l'organisation de la production à la demande de les faire le mettre en avant lorsque c'est possible et utile. Mais nos clients sont majoritairement soit des retailers, on va dire de moyenne gamme et enfin de milieu de gamme, soit des DNVB, et ils réagissent très différemment. C'est intéressant de voir que les DNVB sont nativement des gens qui vivent avec les certifications, ils naissent dans les certifications, ils les exposent, ils les survendent parfois. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Et donc, tout le travail qui est fait en amont de la filière est vraiment bénéfique, est vraiment utilisé et même fait parfois l'identité d'une marque. Les retailers, eux, ont une forte tradition de contrôle et d'audit. Ils ont donc une valeur au niveau de l'entreprise qu'ils vont mettre en avant quelque part dans les CGV de la marque. Tout le monde va savoir qu'ils sont bons et aucun reporter de Canal+ ne va venir leur faire quelque chose dans le dos. C'est en général la première préoccupation qu'ils vont avoir dans cette démarche-là. Et on commence tout juste à avoir des démarches proactives chez un certain nombre d'entre eux sur des produits. Donc pour vendre une histoire qui là va nécessiter donc d'aller chercher des labels plus représentatifs sur une matière en particulier, ça peut être également sur l'origine du lin, et de construire une histoire autour. Mais ça commence, c'est extrêmement balbutiant pour une raison dont on va sans doute parler tout à l'heure, qui est que sur ces segments-là, on n'a pas un dialogue encore très fort entre la filière industrielle et la marque. Et plus on va avoir ce dialogue, plus on va pouvoir faire transparaître ces certifications et en extraire toute la valeur que l'on peut et en présenter toute la valeur que l'on peut aux clients finaux.
Basile, toi, tu vends du Made in France.
Alors nous, comme je disais, on est tout neuf. Hein, mais on parlait de légitimité tout à l'heure. Et je dirais que par naissance, compte tenu de l'outil industriel qu'on a mis en place, on crée une légitimité puisqu'on a intégré la RSE au plus profond de l'ADN de l'entreprise. Et ça me semble être une notion qui est quand même assez importante. Il existe des labels et des certifications. on est encore trop jeune pour être certifié et évidemment on souhaite l'être, notamment sur des normes de management environnemental et de qualité produit. Mais quand on observe la multitude de clients et la multitude de labels, eh bien, on peut s'interroger sur quel est le bon label et quelle est la bonne certification. Donc nous, comme je rejoins Pierre, on est un petit peu en observation pour l'instant. C'est un souhait d'être certifié, mais il y a une certitude, c'est que notre modèle de fabrication fait qu'on produit de manière un petit peu plus vertueuse.
Donc il n'y a pas que les consommateurs qui sont un petit peu dans l'expectative par rapport au label et aux certifications. Basile, restons avec toi si tu veux bien, parce que justement au niveau des relations avec les retailers, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que si on veut vendre du France, du Made in France avec des volumes intéressants, il ne faut pas seulement viser la clientèle de Christine et des grands magasins et le luxe, etc. Mais il faut aussi aller un peu plus vers du moyen de gamme. Ça, toi, tu sers le moyen de gamme. Grégory, tu sers toi aussi des gens de la très grande distribution. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une configuration, j'en ai marre de ce truc qui tombe tout le temps, dans une configuration particulière qui fait qu'il y a plus de possibilités aujourd'hui de travailler avec des retailers, y compris dans le moyen et le bas de gamme?
Oui, tout à fait. Je pense que l'attrait pour ce salon en est la meilleure preuve. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut faire l'économie de la fabrication française, des marques les plus luxueuses aux plus grands distributeurs. Tout le monde s'y intéresse. En tout cas, les contacts qu'on a pu établir avec les différentes marques ou les différents distributeurs le montrent aussi. Notre souhait, c'est vraiment de rendre la fabrication française la plus abordable possible, c'est-à-dire qu'en termes de prix, on doit être capable d'aller chercher des tarifs attractifs pour que ce soit vendable et vendu au plus grand nombre.
Et comment on fait aujourd'hui? Parce que tout le monde a essayé avant.
Non, évidemment. Donc, un petit peu comme Pierre peut le proposer aussi avec Tekin, notre souhait, c'est d'automatiser la fabrication tout en créant de l'emploi avec une technologie qui permet de s'affranchir d'un certain nombre d'étapes de fabrication, puisqu'on... Dans notre cas, donc en tricotage, on a un produit fini qui va tomber de la machine, qui méritera d'être traité, séché. Il faudra quand même poser une étiquette. Mais globalement, la partie confection, chez nous, c'est trois machines, trois piqueuses plates. Voilà. Et tout le reste est complètement automatisé. Alors, la réalité aussi, c'est que de par la mondialisation de l'industrie, notre concurrence, elle n'est pas française. Et en réalité, on ne voit pas les autres fabricants, les autres tricoteurs français comme étant nos concurrents. Notre concurrent, c'est aussi bien l'usine asiatique que l'usine marocaine, que l'usine française. En revanche, il y a une certitude, c'est que notre souhait, c'est d'atteindre des prix avec la montée en charge de l'outil, des prix qui vont être concurrentiels avec la zone Euromède.
Donc j'entends bien que les retailers, ils sont soucieux d'avoir du fabriqué en France, parce
évidemment.
Que ça fait bien, mais est-ce qu'ils mettent aussi les moyens pour vous aider, vous qui vous lancez oui. tous, enfin plus ou moins,
oui.
À faire du Made in France, oui. comment ils font?
Bon,
ils
la
payent,
réalité,
ils co-investissent
c'est que, compte tenu de la jeunesse de notre société, la réalité c'est qu'aujourd'hui on target des sociétés qui ont des prix de vente retail qui varient entre 70 et 150 euros. Voilà, aujourd'hui c'est notre cœur de cible. Mais l'autre réalité c'est qu'on observe des très grands distributeurs qui frappent à notre porte, qui ont besoin de capacités de fabrication et qui, de ce fait, sont prêts à faire un effort d'une part sur leur marge et d'autre part qui nous disent aussi, et c'est le cas d'une très grande enseigne de distribution, dans mon panel de consommateurs, j'ai des gens qui veulent acheter un pull à 19 euros, mais j'ai aussi des gens qui sont capables de mettre 100 euros dans un tricot. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que peut-être que la démocratisation du Made in France va se faire au cours du temps, mais elle est déjà en marche.
Pierre,
Daniel, oui, je rajouterai volontiers un point à ce que dit Basile, parce que je ne sais pas si on ne peut pas le faire ressortir encore plus, qui est qu'effectivement, les retailers, je crois, mènent même beaucoup plus d'énergie que ce qu'on aurait pu imaginer, vu leurs contraintes de tous les jours, dans cette recherche. Mais ce qu'il faut avoir également en tête, c'est que le chemin pour y parvenir est extrêmement long, extrêmement compliqué. Alors long, on n'espère pas trop, mais compliqué en tout cas, et on fait tout pour que ce soit le moins long possible, parce qu'il est culturel extrêmement profond. On a des équipes, par exemple, dans l'habillement, qui ont l'habitude de faire du sourcing via un agent, donne un dessin, je reçois mon conteneur. Et pour transformer, en fait, pour former finalement l'équipe ou les personnes qui sont là pour arriver à aller faire un sourcing ciblé, puis potentiellement, pour rejoindre ce que disait Christine tout à l'heure, aller parler au produit en disant « il faut une petite histoire derrière, on vendra encore mieux, etc. » Ce sont des mutations très profondes chez eux. Et donc, l'énergie qu'ils mettent, elle ne peut pas être visible immédiatement. Mais je rejoins complètement Basile sur le fait qu'on a été presque surpris de voir à quel point ils étaient conscients de ce besoin. Et je pense qu'ils ont vraiment en tête que dans 5 ans ou 10 ans, la production en Europe, enfin la part de production en Europe versus Asie aura probablement été, enfin la part hein, en Europe aura probablement été remplacée, multipliée par 5 ou 10 au remède, et que ça représente des volumes colossaux qu'il va falloir qu'ils gèrent à un moment, avec les bonnes équipes aussi, parce que ce sera plus proche du travail à façon que du sourcing en picking, parce que l'ensemble de l'industrie aura bougé et que ces équipes-là, ils ne vont pas les former en claquant des doigts.
Et c'est aussi un changement d'état d'esprit, je pense, parce que la distribution, on l'a souvent vilipendée en disant ils vous piquent vos idées, etc. Et puis après, ils vont faire produire en Chine. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours sur ces mêmes angoisses ?
Aujourd'hui, il est clair que tout le monde connaît les problèmes des containers qui arrivent de Chine. Tout le monde connaît enfin, tout ce qui est en train de se passer. Donc, tout ça est à notre avantage. Et parfois, c'est plus simple de parler à quelqu'un qui a le même langage, qui n'est pas loin, et les uns et les autres se disent, ensemble, on devrait réussir à faire quelque chose. Un peu tout à l'heure, j'ai expliqué que j'étais devenu tricoteur. C'est parce que, donc, avec Decathlon, on s'est retrouvé avec des salariés qui travaillaient avec nous avant. Et ce salarié en question avait travaillé chez Lacoste et avait travaillé sur les fameuses machines qu'aujourd'hui on utilise tous les deux, et donc était capable de faire des produits sans couture et avec plus de déchets, etc. Et donc, en parlant avec ce gars, on a mis peut-être un peu 2 ans, 3 ans, et aujourd'hui, on a un atelier avec 15 machines qui tournent jour et nuit, et on descend des bonnets. Donc, ça veut dire que si vous allez acheter vos bonnets Wetzé de sport d'hiver chez Decathlon, ils sont fabriqués à Tourcoing, le fil est fait dans notre usine de Trélon, donc à côté de Fourmies, la teinturie est faite à Tourcoing, et c'est des produits qui sont 100% français. On a réussi à ce que ce produit, on a travaillé intelligemment avec les équipes pour le faire évoluer, pour que dans sa conception, ce produit, on appelle ça entre nous, soit éco-conçu. Ça veut dire que le jour où il n'aura plus d'utilisation et que l'on voudra le recycler pour en refaire de la fibre, pour derrière en refaire du fil qui pourra être réutilisé dans d'autres applications, eh bien, on puisse le faire de manière simple et qu'il reste une valeur sur ce produit. Donc là, on a aussi lancé un projet refilon où on va mettre en place des lignes pour refiler ce fil.
Donc on n'observe pas de co-investissement, mais des espèces d'engagement quand même, de travail en commun, de collaboration qui rassure celui qui prend le risque d'investir.
C'est même plus que rassurer. Quand un engagement, moi j'ai un engagement dans les mains de 5 ans sur des productions, si c'est correct. Et donc ça veut dire que je peux aller voir monsieur, mon banquier, et on a mis 1,5 million pour acheter ces machines, plus toute l'installation. Voilà, donc ça veut dire que c'est énorme. Et si d'autres... En fait, moi, je suis filateur, je ne suis pas tricoteur. Mon sujet, ce n'est pas de devenir un tricoteur, c'est de retrouver des clients tricoteurs et donc de pouvoir montrer que cette opération est possible. Donc, au bout de 2-3 ans, on verra si c'est possible ou pas. Mais on est dans cette démarche où on arrive totalement dans la démarche importante que tu as dit. On ne veut plus de déchets, on veut utiliser le moins d'énergie, on veut réussir à faire quelque chose de simple. Ça veut dire à Decathlon, on leur a dit, vous pouvez nous donner à partir du mois de septembre, vous allez commencer à voir ce qui se vend, les coloris qui marchent bien, et bien ceux-là, on a le temps de les teindre, on a le temps de les refaire, le réassort pour arriver sur décembre, janvier, février, c'est tout à fait possible. Donc on est pile poil dans cette démarche, et je pense que c'est ce que l'on vit au moins tous les trois, et ce que les clients que tu vois désirent. Donc on avance vraiment dans ce sens-là.
Alors si Daniel m'autorise à élargir, parce qu'on voit ces machines de tricotage 3D qui sont très impressionnantes, qui sont aussi un gros investissement, et dont on se dit, mais c'est peut-être unique. L'expérience.
Attends. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est le tricotage 3D?
En deux mots. Stand C10.
Vas-y. Vous en faites tous quasiment.
Je vais parler pour décrire. Bah,
c'est assez
simple. C'est Shimaseki, un japonais.
Assez simplement, voilà. Donc, on travaille avec un fabricant de machines japonais, avec en réalité deux technologies qui sont intimement liées. Une technologie digitale pré-production où on va modéliser virtuellement, mettre au point le produit sur un avatar virtuel lui aussi, avant de passer en phase de production. Toutes ces étapes de pré-production, elles nous permettent de gagner un temps certain sur le développement du produit, la validation des couleurs, du style, des motifs.
Je te coupe un peu plus. En tant que filateur, la création de nos fils en amont, on l'a fait sur le même ordinateur. Ça veut dire que le fil, il n'a jamais existé. Je suis capable d'envoyer à Basile le fil dans une nouvelle gamme de coloris qui vient de chez Nelly. Et donc, on va présenter toutes ces couleurs qui n'est que virtuelle. Que virtuelle. Donc, il va avoir réalisé son modèle. Il peut le présenter à ses clients. La couleur n'existe pas. Le fil n'existe pas.
Le proto n'a jamais été réalisé.
Ensuite, effectivement, on intègre la 3D de la conception des produits à la fabrication, puisqu'ensuite, les produits, on passe à l'étape physique sur la machine réelle où on va tricoter un produit entièrement, intégralement. C'est ce qu'on appelle le tricotage intégral, où on fabrique en même temps les manches et le corps, en même temps les panneaux avant et les panneaux arrière. Voilà.
C'est ce qu'on fait honnêtement, je crois, de plus automatisé dans tout ce qui est production de vêtements. Hein, je pense, en tricotage.
Certainement, et c'est aussi, c'était aussi de notre point de vue le modèle le plus vertueux et celui qui nous permettrait le plus facilement d'aller chercher des prix abordables.
Il y a des gens qui comparent ce métier-là à l'imprimante 3D, oui, d'accord, oui, qui fait son.
On a fait un meet-up justement où on comparait les impressions 3D et la maille 3D. Voilà. Pierre, tu voulais dire.
Oui, mais je voulais justement nuancer les craintes qui pouvaient sortir de la très haute technologie ou de la très belle technologie qu'il y a dans le tricotage 3D à se dire mais c'est juste pour en fait les pulls et les bonnets, en fait il reste tout le reste à faire. Mais ce que nous avons découvert en travaillant sur beaucoup d'autres process et notamment en faisant beaucoup le lien dont je parlais tout à l'heure entre les marques et la filière industrielle, c'est qu'il y a en réalité non seulement des dizaines de procédés qui sont peut-être pas aussi abouti que celui-ci, mais qui permettent de réduire considérablement le temps minute de confection, ce qui est vital, hein, que ceux qui pensent que ça ne crée pas d'emploi, je vous rassure, toute automatisation dans le textile crée de l'emploi aujourd'hui, on ne peut pas le dire autrement, quelle qu'elle soit. Et ces quelques dizaines de procédés, en fait, touchent la relocalisation potentielle ou induisent automatiquement la relocalisation potentielle de dizaines de millions de pièces, pas de quelques dizaines, mais de dizaines de millions de pièces. Et ce sont des choses qui sont à portée de main aujourd'hui, qui existent. On a un très beau projet, on a même plusieurs très beaux projets avec les tissages de Charlieu sur une autre technologie qu'on appelle volontiers 3D, qui est le tissage 3D, qui existe depuis très longtemps, mais qui est relativement peu usité ou maîtrisé par beaucoup de gens. Pourquoi ? Tout simplement parce que les marques ne les connaissent pas. Donc si, quand vous dessinez votre vêtement, vous ne pensez pas aux procédés industriels qui sont derrière. Ou si, quand vous avez créé votre vêtement, vous envoyez un dessin et vous dites, vous faites, l'atelier vous dit, est-ce qu'on pourrait pas, vous faites, est-ce qu'on pourrait pas, vous faites quand même, amen. Ça ne peut pas marcher, on ne peut pas avancer. Et on a besoin de cette interaction plus forte. Pierre-François Lelouette disait à la dernière session, justement, les marques ne coupent pas et ne couperont pas au fait de remettre les mains dans la production si elles veulent être sur le haut du panier.
C'est cette fameuse approche design to cost dont tu me parlais. Pour moi,
tout à fait.
C'est direct to consumer, mais c'est aussi design to cost, c'est-à-dire d'intégrer dès la première idée qu'on a d'un produit qu'on est en train de créer, une question en se demandant si ça va être possible de le produire pour le marché qu'on a, vu les coûts que ça va induire.
Alors,
si je résume, c'est
tout à fait, mais c'est à trois dimensions. C'est l'éco-conception. C'est le design to cost au sens du coût de production en tant que tel. Et c'est aussi potentiellement le design to cost au sens de la capacité de produire à la demande, c'est-à-dire de ne pas avoir une usine à gaz à démarrer lorsque l'on veut commencer à le produire. Parce que sinon, on va reproduire un énorme conteneur qu'on ne va jamais vendre en entier. Donc, c'est cette triple approche au niveau de la marque qui va le plus permettre d'accélérer le mouvement et qui est aujourd'hui, à contrario, la barrière à une relocalisation massive de beaucoup de produits qui n'attendent que ça.
Alors là, je voudrais, toujours sur l'aspect retail, enfin sur l'aspect des clients directs de l'industrie, aborder un point qui est celui du pre-order dont on a parlé, Christine, parce que je pense que ça pourrait ouvrir des possibilités aussi qui sont en phase avec ce que tu viens de présenter. Tu peux nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que ça touche et en quoi tu vois que ça peut toucher l'industrie française ?
Alors, effectivement, c'est dans la suite, dans la continuité de ce que tu disais. Récemment, c'est plutôt des e-tailers à ce stade qui développent des systèmes de pré-order. Donc, je pense notamment à le site LNCC, Net-à-Porter, et très récemment, je crois que Farfetch a annoncé ça il y a 2 semaines. Donc, l'idée, c'est de travailler. Alors, je vais vous parler plutôt de Farfetch, qui, à mon avis, a le modèle le plus abouti, semble-t-il. L'idée pour eux, c'est de travailler en partenariat avec des marques de luxe, de décider de capsules, donc ce n'est pas toute la collection, c'est une sélection de produits qui, au départ, n'existe que virtuellement. En termes de communication et de marketing, Farfetch va donner ses produits digitaux virtuels à des influenceurs qui vont les porter de manière virtuelle.
Donc des avatars.
Enfin, c'est des vraies personnes, mais enfin en tout cas le vêtement n'existe pas encore, même pas au stade de prototype. Hein. Et ces looks, ces pièces vont être en vente, en précommande, à destination des clients les plus, les top clients de Farfetch, les very important customers. L'idée, évidemment, derrière tout ça, c'est que ça permet de pas se retrouver avec des surstocks en fin de saison, d'avoir une production plus responsable. Mais surtout, je pense que pour la filière française du Made in France, ça peut être une opportunité parce que c'est un système qui va demander de la réactivité et de l'agilité. Et la proximité de l'outil de production français, à mon avis, peut être un atout pour ça. Et... là, pour l'instant, ça reste une minorité de retailers qui font ça, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va se développer. Pour des raisons évidentes financières, pour limiter les surstocks, les invendus, et pour des questions environnementales aussi, auxquelles les clients sont évidemment de plus en plus sensibles.
Donc, c'est les marques. Ce serait aux marques, en fait,
d'initier
ce processus, oui. Et de s'occuper de toute la partie visuelle, 3D, etc.
Oui, c'est plutôt c'est du côté des marques.
D'accord.
Et cette agilité et cette réactivité qu'on peut trouver dans l'outil français, il y a aussi, au moment où la vente, si je puis dire, est terminée, on lance la production, mais après, il y a toute la question éventuellement des réassorts. Donc là aussi, les reorders, les réassorts ont besoin de cette flexibilité, de cette agilité, de cette proximité que l'outil français peut offrir.
Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une grosse possibilité pour vendre des volumes en grande distribution, pour pas dire bas de gamme. On peut vendre aussi du luxe, effectivement, en Made in France. Est-ce que la partie la plus difficile, ce n'est pas le moyenne gamme ? C'est-à-dire ces marques qui sont plus petites, qui ne sont pas forcément très profitables. Est-ce que vous arrivez à vendre ? Est-ce que vous avez des pistes pour eux ?
En ce qui nous concerne aujourd'hui, nos clients sont plutôt des clients de moyen de gamme, puisque ce sont ceux qui sont prêts à payer le prix que ça coûte aujourd'hui, même si notre souhait, c'est de réduire ce coût à l'avenir. Donc ces clients-là sont déjà engagés, en tout cas les marques qui ont placé la RSE au cœur de l'entreprise. On travaille avec des marques comme Balzac Paris, comme TBS, comme Fago. Ces marques-là ont placé au cœur de l'entreprise la RSE. Donc effectivement, et elles pratiquent des prix qui vont de 80 à 150 euros quoi, sur leur tricot.
D'accord. On peut même descendre plus bas.
Et on peut descendre plus bas. Non,
c'est une réalité. Il ne faut pas avoir en tête que le tissu industriel français, ce n'est que pour le luxe. Heureusement qu'on a le luxe. C'est lui qui a permis de faire vivre, je pense, survivre tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et beaucoup de savoir-faire aussi. Mais là, c'est le moment où on peut vraiment élargir le champ des possibles. Pour élargir un petit peu la fourchette que donnait Basile, nous, on commence sur des prix par pièce à 30 euros. Et ça se fait.
Et là, la différence, pardon Damien, juste un mot, c'est que toi, tu parles essentiellement chez Netram, oui, alors que vous deux, vous parlez de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus automatisé qui est la maille.
Et de laine aussi, enfin de matériaux aussi qui sont en soi plus coûteux et plus représentatifs.
Oui. Il y a un facteur qu'il faut prendre en compte quand même, c'est aussi la marge qui est souhaitée par le distributeur et son canal de distribution. C'est un élément important.
Et le vrai sujet, la marge.
La marge, oui.
Qui est souhaitée par le distributeur, par le retailer, mais lequel connaît vraiment sa marge complète sur le produit ?
Vous mettez les mots de la bouche, justement. Je vous écoute avec grande attention parce que cette question, c'est aussi un sujet particulièrement dans la filière lin qui va devenir intéressante et tout à fait symbolique dans l'année qui vient, puisqu'avec la relance, la réouverture progressive de filatures de lin en France, puisque les filatures, donc, c'est du 100% lin, donc c'est vraiment un maillon qui était absent de la France depuis une quinzaine d'années et qui est totalement dépendante du lin.
Safilin, pour ne pas le nommer.
Mais pas uniquement, et surtout une grande diversité d'acteurs, c'est-à-dire des acteurs traditionnels comme Safilin, mais vous avez aussi un groupe coopératif comme Natop, qui va ouvrir sa filature.
Le maître de Mester.
Voilà. Vous avez également, bien sûr, Emmanuel Lang, donc c'est-à-dire plutôt un tisseur traditionnel de plus petite taille. Vous avez d'autres projets également, qui sont pensés en France ou même en Europe de l'Ouest. Bon, là, on parle de France, mais moi, au niveau européen, il faut bien aussi parler des événements, des éléments Europe de l'Est. Et donc, ce qui est important, bien sûr, c'est la question quid du prix et du positionnement pour un produit qui serait maintenant, pour le lin, 100% made in France, c'est-à-dire du champ au tissu à minima. Là, la question va se poser. Alors, le lin est plutôt une fibre positionnée sur le haut de gamme. On a pu le mesurer donc, via notre baromètre avec l'IFM. Bien sûr, la question symbolique au niveau de marché, ce serait plutôt, par exemple, la chemise en lin de chez Uniqlo à 34,90 € qu'on peut trouver sans doute à côté d'ici, qui aujourd'hui est très majoritairement made in China. Y a-t-il une possibilité ? Alors on parle bien, là vous parlez de produits à au moins 70 €, là on parle de quelque chose à 34,90 €. La question se pose, on ne connaît pas la marge.
Oui, je pense que tu as intérêt à parler avec Pierre, parce que là c'est probablement le système de on-demand qui est la solution pour gagner.
Alors exactement, mais ce n'est pas la page de pub pour autant.
Non, mais parles pour tous les gens qui vont se lancer dans le on-demand.
Mais c'est la réalité. Effectivement, donc un vêtement, c'est deux grandes composantes de coût, la matière et le temps minute. On devrait dire trois en fait. Donc, je regroupe dans la matière le traitement machine parce que c'est un bloc qui est pris séparément. Et ensuite, dans la confection, on va mettre le temps d'automatisation et le temps minute. Il faut qu'on prenne l'habitude d'avoir ces éléments bien séparés dans le temps minute humain, d'avoir bien ces trois éléments en tête quand on le fait. Et en fait, quand on prend un produit, qu'on le décortique, que l'on connaît un peu tous les process qui existent et que l'on a une petite souplesse pour les adapter, on peut relocaliser une typologie de vêtements en accord avec le designer. Encore une fois, je parlais de l'interaction nécessaire parce qu'il y a parfois des compromis à trouver, d'une manière surprenante. Donc effectivement, parlons-en. Encore une fois, les leviers principaux pour la relocalisation, c'est la production à la demande et l'automatisation. La production à la demande parce qu'on arrête de jeter ce qu'on produit, l'automatisation parce qu'on gagne du temps minute intrinsèque. Et au-delà de ça, on a toute une ribambelle d'autres facteurs qui vont devenir de plus en plus gros. Tout le monde entend parler de l'impact carbone. Vous avez regardé l'impact carbone du kilowattheure français. Je crois que dans le traitement de la matière, c'est excessivement prépondérant, donc ça va être un gain énorme en termes de compétitivité par rapport à d'autres.
Parce qu'on a une énergie non carbonée et de ce fait, nos bilans carbone grâce à l'amont textile vont être très très bénéfiques. Donc ça va bénéficier à l'ensemble du produit, c'est-à-dire son aval, la confection, le tricotage.
C'est quasiment du simple au double entre la France et la Chine, par exemple. Un peu moins d'écart entre la France et le Maghreb et un peu moins d'écart entre la France et le reste de l'Europe. Et donc on a vraiment sur ces éléments-là qui arrivent prochainement de la compétitivité supplémentaire qui arrive. On a d'autres éléments qu'on voit quand vous regardez donc, l'évolution des salaires minimums dans le monde qui arrivent et qui poussent chaque année. Ça fait partie des indicateurs qu'on regarde quasiment tous les jours dans cette recherche de relocalisation et d'automatisation. Encore une fois, la relocalisation, on la cherche également pour l'empreinte écologique qu'elle apporte. Les deux sont complètement liés. Et on a encore un dernier élément que tout le monde a vu, mais qui n'est finalement peut-être pas le plus important, qui est la contrainte logistique. La contrainte logistique, pour ce qui est des containers, reste importante. Sa partie carbone est en réalité relativement minime dans l'ensemble de l'équation. Mais à partir du moment où toutes les marques commencent à accélérer vers de la production à la demande et donc accélérer le cycle des livraisons, eh bien, le conteneur devient très rapidement de l'avion, et là, pour le coup, on tombe dans des impacts carbone nettement supérieurs. On rajoute à ça l'aléa des livraisons que tout le monde a connu ces derniers temps, je ne vais pas remuer de couteau dans la plaie, on tombe dans des équations qui sont de très très loin, de plus en plus favorables à de la production plus locale.
Je voudrais rebondir sur l'aspect filière, parce que je vous entends, on parle de textile, on parle de confection, de tricotage. On a vraiment constaté qu'à l'occasion, enfin, grâce au Covid, il y a eu une espèce de changement d'état d'esprit dans l'ensemble de la filière, et que pour produire des masques notamment, des surblouses, etc., il y a eu un élan collectif et un élan collaboratif. Au lieu d'être essentiellement en concurrence, les gens, les industriels, se sont mis véritablement à collaborer. On a vu le savoir-faire ensemble qui a fédéré en quelque sorte la production de ça, des masques et des surblouses, mais qui s'est transformé. Il y a eu jusqu'à 1500 entreprises, je crois, qui étaient dedans. Mais ça s'est transformé en une association qui s'appelle Façon de faire, où il y a quand même 227 entreprises qui sont restées pour continuer à travailler ensemble et à collaborer. Donc, est-ce que vous pensez que cette collaboration, cet état d'esprit nouveau collaboratif entre gens qui sont essentiellement concurrents ou fournisseurs et clients, est-ce que ça peut vraiment rapporter de la compétitivité et aider à vendre du Made in France ?
Donc, en tant qu'industriel, je vais te dire, des concurrents, je pense que la grande majorité des acteurs dans notre pays, on n'a plus de concurrents. Les concurrents, c'est le reste du monde, mais c'est pas ici sur place. Et ici sur place, déjà même avant le Covid, c'est des gens qui se parlent, des gens qui échangent, des gens qui, au niveau humain, au niveau matériel, au niveau matière première, on a effectivement les coudes serrés. Par contre, on est une vieille profession. Ceux qui sont encore vivants, parce que moi, ça ne m'arrive pas de rencontrer une personne où je dis « je suis filateur teinturier ». « Ah bon ? Il y en a encore ? Ça existe ?» Et je dis, bah oui, mon père faisait ça, mon grand-père faisait ça, mon arrière-grand-père faisait ça, et mon arrière-arrière-grand-père faisait ça. Et donc, mais comment as-tu fait ? Donc, je leur dis, ben, on a automatisé, et on a répondu, effectivement, à la commande, à la demande, puisque les gens, ils veulent la couleur bien spécifique, parce que c'est quoi la couleur spécifique ? C'est ce qui va correspondre à ce qu'ils ont été achetés en Asie. Je parle dans mon métier de grande diffusion. Et donc, très automatisé, de la couleur spécifique. Et donc, voilà, on a tous les gens, aujourd'hui, on travaille de manière totalement différente. De manière totalement différente. Tu sais que je suis un des membres du R3Z Lab. Pourquoi un jour, j'ai tapé à la porte ? Parce que c'est des moyens et des réseaux de rencontrer d'autres personnes et donc d'apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, après, on peut faire du business ensemble. Et c'est aujourd'hui comme ça que se passe la grande majorité de mes métiers en France. C'est par des gens qui se connaissent, qui ont besoin de choses spécifiques, et on met au point des produits, et après ça fait des grosses quantités, enfin ça fait tourner nos usines. Donc aujourd'hui, la méthode de travail, elle a totalement évolué. Donc oui, les réseaux, que ce soit les réseaux dans les textiles techniques, que ce soit les réseaux, qui sortent des limites de nos métiers, tout le temps. Et à la sortie, ça fait des rencontres, des liens humains et du business. Tu vois, nous, on s'est rencontrés, on ne va pas dire un peu, je ne lui vends rien.
Au berceau.
Mais oui, mais c'est un peu ça. la même chose, avec Basile, la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui dis, tu sais ce que tu es en train de faire ? J'ai passé ma commande. Viens voir, dès que les machines arrivent, viens voir. Il est rentré dans mon atelier, il a demandé à toutes les personnes, toutes les questions qu'il voulait. C'est viens voir.
En France, on n'est pas concurrent, on est confrère avant tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse les tricoteurs à remettre en place une école de formation. Parce que malheureusement, comme on a délocalisé et que l'industrie a souffert, il n'y a plus non plus de formation de techniciens. Donc, je rejoins complètement Grégory. Là, on est obligé de bosser ensemble et de jouer serré.
Et je pense, maintenant, on sera tous gagnants si on arrive à travailler de la même manière avec les retailers.
Oui.
Parce que, toi, j'ai vu certains de mes confrères dans la salle qui ont un certain âge. Faut pas oublier, hein, en 2000, c'était il y a pas longtemps que s'est ouvert les accords de l'OMC qui ont permis à la Chine, etc. Il y a plein de choses qui sont sorties à partir de 2000. 2000, c'était il y a 20 ans. Donc, il y a des gens qui ont encore des mauvais souvenirs de voir toutes ces commandes, comme tu disais, qui sont parties. Aujourd'hui, on est plutôt dans un sens inverse. Mais il faut réapprendre à se parler avec les retailers. Et on parle aujourd'hui des langages qui sont différents. Il faut qu'on arrive à ce que ces langages soient qui comprennent nos outils, nos usines, nos structures, et que nous, on comprenne
leur logique, leurs clients. Leur
totalement. Oui. Et aujourd'hui, on en est loin. Oui. Et tu vois, il y a un autre sujet qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il existe, félicitations pour tout ce qui est en train d'être fait, hein, c'est génial, mais il existe plein d'industriels en France. Mais tu demandes à des retailers, vous savez, et ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas se dire, mince, où je vais trouver cette personne qui va me faire telle chose ou telle chose dans une maille parce que je vais avoir un de jauge fine. Et aujourd'hui, on a plus appris à parler ensemble. Il faut raccrocher les morceaux.
Je pense que les activités, enfin les plateformes comme celle de la maison des savoir-faire et de la création ou
plein de trucs différents,
façon de faire, tout ça,
c'est aujourd'hui
vraiment des outils cruciaux. Il faut se brancher dessus.
J'ajouterai à ce que disent Grégory et Basile que dans notre métier et dans notre situation d'interface entre justement les retailers ou les marques et les réseaux de production, on note exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est notre raison d'être parce que le premier échelon que vous avez très bien décrit, qui est déjà ne serait-ce que savoir qui je dois chercher, où, quand, comment, il est clé. Et heureusement que toutes ces plateformes se créent, heureusement que tous ces réseaux se créent et grandissent. Notre enjeu aujourd'hui, c'est pas de se faire concurrence, c'est de préparer une multiplication de notre industrie par 5, peut-être 10 dans les années qui viennent. C'est ça notre trip, hein. C'est pas là d'essayer de se marcher sur les pieds, que ce soit très clair. Donc il y a cette première étape qui est la mise en relation entre les commanditaires et les faiseurs. Mais ensuite, il y a une autre étape encore qui, elle, est également très large, qui est leur coopération dans le travail et la coopération entre l'ensemble des chaînes de production textile pendant le travail, qui se fait aujourd'hui de plus en plus grâce à ces relations, qui se fait encore beaucoup à l'ancienne, et qui est clé. Ce qu'il faut voir, c'est que la spécificité du textile, c'est son hyperfragmentation dans toutes les dimensions. C'est-à-dire, on a, je crois, 130 000 acteurs en Europe.
Textile,
dans, peut-être, exactement, dans peut-être, je ne sais pas, 50 ou 100 disciplines différentes, déjà. Et une production elle-même, c'est de la fragmentation. On ne fait pas une production pour 5 ans. On n'est pas chez Renault-Nissan. Donc, tous les deux mois, on monte une chaîne agile. On va prendre une dizaine d'acteurs différents. Ce sont des entreprises différentes, avec des systèmes différents, avec des gens différents, qui ont des savoir-faire, qui ont déjà été compatibles, qu'ils ont expérimenté ou non. Et tous ces gens-là, pendant 10 semaines, ils vont être comme ça pour que ça marche. Et donc ça, ça fait partie du cœur de métier de Tekin, hein, de travailler sur la digitalisation de ces liens-là. Mais il n'y a pas que la digitalisation. La digitalisation, elle commence par les relations de toutes ces plateformes.
Oui, et les relations entre les gens aussi.
Voilà.
Oui. OK. Question lin. Le lin est une filière qui a toujours bien communiqué, puisque je me souviens des congrès annuels où il y a des gens qui sont très bronzés parce qu'ils sont toujours dans les champs en Europe, même un peu nord de la France, avec des retailers aussi parfois, des tisseurs, etc. Est-ce que tu as l'impression que le lin a vraiment profité de cet esprit de filière
Je pense qu'on peut dire que le lin en a profité. On est aujourd'hui dans la satisfaction de voir que dans une chaîne de valeur effectivement qui est complexe avec de nombreux métiers différents et de nombreux échelons agro-industriels, on sent quand même qu'il peut y avoir un renforcement entre les différents acteurs de ce type de collaboration avec la réapparition et le développement progressif de tous les chaînons. Donc je pense bien sûr aux chaînons filature au niveau français, mais aussi aux chaînons tissage. Il y a toujours eu du tissage de lin encore maintenant, mais on voit de plus en plus d'initiatives et d'acteurs qui, dans leur choix d'usage de textile, prennent en considération du lin. Donc c'est une bonne chose et ça développe aussi de plus en plus les partenariats. Et je pense aussi, effectivement, c'est plutôt un phénomène minoritaire pour le lin avec seulement 10%, mais la question des textiles techniques, où là, on voit aussi, avec l'accroissement des différents chaînons de valeur qui se développent, plus de collaboration. J'ai lu récemment dans Challenge, par exemple, une collaboration autour d'un tissu technique entre Terre de Lin, qui est le plus gros acteur producteur de fibres, et Emmanuel Lang, qui est donc un tissage qui a développé une filature autour de cette question de tissu technique. Donc oui, clairement, le renforcement permet de développer de plus en plus de collaboration.
Oui. Okay. Avant-dernière question, comment est-ce que vous voyez, et le on-demand va être intéressant, je crois, comment vous voyez à terme, disons d'ici 5 ans, 10 ans, etc., l'articulation entre les différents types de production, la production à la demande, la production, les achats lointains, parce que les achats lointains vont évidemment continuer à exister, parce que quand même aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la production véritablement française pour le marché français, ce n'est pas grand-chose. Selon les méthodes de calcul, ça plafonne à 12%, et c'est déjà très, 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 très... c'est déjà très généreux. Donc, le marché français, il n'achète pas grand-chose du Made in France. Donc, il va continuer à acheter du grand import parce qu'il y a toujours des gens qui n'auront véritablement pas d'argent pour acheter autre chose que du Made in pays très peu cher. Sauf réglementation, et ça, peut-être Basile va nous en dire un mot. Ouais. Bah, commence par ça, si tu veux, et puis ensuite, tu nous dis comment tu vois les choses.
Ouais, je crois que simplement, il faut replacer le curseur au bon niveau. Voilà, on a vécu 40 ans de délocalisation. J'y ai participé à double titre en tant que professionnel et en tant que consommateur. Et il m'arrive aujourd'hui encore, je ne suis pas parfait, d'aller acheter des produits qui sont fabriqués ailleurs qu'en France. Mais la réalité, c'est qu'on peut certainement faire fabriquer en France beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et surtout, on a la chance en France de pouvoir le faire de manière beaucoup plus vertueuse. Et ça, je crois que c'est un vrai, c'est à la fois une demande du marché et une vraie force du marché de l'industrie française.
Mais le consommateur est faible et le consommateur, comme toi tu le dis, de temps en temps, on se laisse tenter par des choses qui ne sont pas vertueuses et on le sait bien. Donc, le besoin de réglementation, et c'est pour ça que je te donnais la parole, parce qu'avec 149 autres marques, tu as signé une espèce de manifeste qui est paru dans Le Monde, je crois que c'était en mai-juin, et qui a eu un certain retentissement, on en a parlé, pour dire au pouvoir public, mais réglementez la consommation, réglementez-nous.
Il est effectivement anormal de mon point de vue, mais apparemment je le partage avec d'autres personnes, de faire rentrer entre guillemets gratuitement en France des produits qui ne respectent pas les mêmes conditions que celles qu'on nous impose ici. Voilà. Et c'est en ce sens que je dis qu'il faut certainement replacer le curseur au bon niveau, également au niveau réglementaire, pour essayer d'harmoniser entre guillemets les prix, en tout cas de tous travailler avec les mêmes règles.
Oui. Et le combat pour l'évaluation de l'empreinte carbone ou l'empreinte, disons, environnementale des produits, qui est un travail qui est en train de se faire, avec beaucoup d'enjeux qui sont dangereux pour la profession. Enfin, ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est l'ADEME, avec un certain nombre d'entreprises françaises qui s'en occupent. Ça peut ouvrir aussi un appel d'air à ces réglementations qui viendraient donc plutôt par l'Europe, qui font partie du travail de la Sustainable Apparel Coalition, qui est soutenue par l'Europe pour mettre en place un vrai cahier des charges pour l'étiquetage environnemental et social. C'est les deux, hein, environnemental et social des produits, à la façon en s'appuyant sur l'outil de mesure Higgs du fashion, je sais plus quoi, fashion revolution, non, enfin bref, voilà. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui vient appuyer ça.
Et c'est en cours. C'est en cours.
Oui, c'est ça. C'est 2022 en fait.
Aujourd'hui, tu vois, au niveau de l'UIT, on est 7 industriels à avoir des commissions tous les 15 jours sur l'étiquetage, avec des choses qui repartent dans tous les sens. C'est super compliqué de se mettre tous d'accord sur plein de trucs, mais ça avance, et ça avance parallèlement avec les autres pays européens.
Oui, ça c'est magnifique. Christine, sur la façon dont tu vois l'évolution des sourcings finalement français.
Par exemple, pour les grands magasins, puisque c'est quand même ce que je connais le mieux, moi, par exemple, quand je parle avec les Galeries Lafayette, ils me disent qu'ils aimeraient bien, pour leur marque propre, sourcer davantage en France. Mais je reviens à la question de la marge qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la stratégie pour un grand magasin derrière une marque propre, au-delà de peut-être vouloir construire un discours de marque ou le renforcer, c'est de créer de la marge, d'avoir une meilleure marge. Donc, c'est vraiment au cœur de leur problématique de marque propre. Et ils ont du mal à trouver une offre française. Alors, peut-être aussi par un manque de connaissance du tissu industriel, Mais aussi, si on se place dans le cas où ils achètent des produits blancs sur lesquels ils viennent mettre leur étiquette, moi, les échos que j'ai, c'est qu'il y a un manque de produits intéressants. Au-delà de savoir si y a des fabricants qui peuvent tisser, filer, tricoter, il y a la question des produits blancs qui manquent un petit peu d'intérêt. Et au Galeries Lafayette, effectivement, ils me disaient aussi qu'en dehors du lin, effectivement, il y a une grosse offre de lin et pour eux, c'est très bien, c'est très complet et ça correspond à une vraie demande des consommateurs. Mais en dehors de ça, ils ne trouvent pas grand-chose. Et pareil, quand je discute avec les gens de chez Aigle, qui donc en France fabriquent uniquement leurs bottes en caoutchouc, ils aimeraient par exemple fabriquer leur parka, qui est quand même leur deuxième best-seller après les bottes en France, mais ils n'y arrivent pas.
C'est J'espère ça, moi, les échos que j'ai. J'espère qu'il y a un maximum d'exposants là-haut qui t'écoutent. Grégory ?
Je vais te remettre en relation avec certaines personnes. Pour Aigle.
Le schéma global, comment tu le vois évoluer des sourcings, notamment pour le marché français ?
Dans tous les cas, la production qui existe dans notre pays, elle est quand même très faible. Donc, quand tu disais 12%, tu vas peut-être monter à 20%, mais c'est rien. Donc,
c'est quand même un marché de 30 milliards d'euros, hein, le marché français, donc, tout compris.
Et voilà, et on parle de français, mais on peut dire européen, c'est ce qui nous intéresse. Voilà.
Oui.
Je crois que ce qui est important, c'est de remettre de l'industrialisation, de remettre des usines, de mettre de l'automatisation. Parce qu'aujourd'hui, nos amis chinois qui sont confrontés à beaucoup de législations, on préférait prendre leur argent et leurs anciennes usines et aller les mettre au Vietnam. Mmh. Non, mais on aurait pu se dire qu'avec les avancées technologiques d'aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans ou 40 ans, ils auraient pu dire eh ben, on automatise très fortement et on reste en Chine parce que notre marché est tellement en train de grandir pour notre consommation locale. Non, ils ont glissé de l'autre côté. Donc c'est un peu bizarre ça. Mais moi, je pense que les fameuses machines Shima dont on parle, elles n'existaient pas au prix auquel elles coûtent aujourd'hui, il y a 20 ans. Donc il y a des données technologiques pour notre monde du textile qui sont en train d'arriver, qui sont en train de nous donner des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc on a une vision qui doit être totalement différente. Pour les traitements des eaux en teinture, pour tout ce qui est la logistique dans les usines, tout ce qu'on voit à chaque fois qu'on regarde un petit film d'Amazon avec les petites machines qui vont partout. Il y a combien d'industriels qui l'utilisent aujourd'hui ? Très peu. Mais une fois qu'ils ont rempli tout leur magasin logistique Amazon, eh ben, ils vont tous faire toc-toc-toc chez nous tous, les industriels, en disant on va venir vous les monter. Et on en aura tous dans nos usines. Alors oui, c'est vrai, on aura peut-être moins d'opérateurs peu formés, plus de personnes à des différents niveaux, mais ça veut dire que ces produits vont revenir. C'est pas dur. Moi, ma filature et ma teinturerie, c'est 90 personnes. La même usine en Asie, c'est 900 personnes. C'est 900 personnes. Ça veut dire quoi ? Je suis un salaud de patron parce que j'ai mis des gens dehors ? Mon métier n'existerait plus si je n'avais rien fait. Et donc, je pense qu'on peut le faire à tous les niveaux. Et tout à l'heure, quand tu disais les produits grande diffusion, parce que moi, je ne mets pas bas de gamme, je mets grande diffusion, il y a tout à fait moyen de les refaire ici. On a une énergie qui coûte peu cher. On a plein de gens qui pensent.
Qui est vertueuse, en
fait. Et non, mais donc on a toutes sortes de moyens. Non, le gros problème de nos métiers, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un colorant. Parce qu'il ne faut pas rêver, il y a quelques colorants où on s'amuse à faire des choses. Et c'est très, très bien qu'on continue à faire.
On ne passera pas d'un 30.
Les colorants d'ailleurs. Viennent, tous les produits pour faire les colorants viennent tous d'Asie.
Oui.
Ils viennent d'Inde, ils viennent de Chine. Les matières premières, la plus grande partie des matières premières chimiques, parce que désolé, si on mettait que la laine, le coton, le chanvre, le lin, on serait plus de la moitié de la salle nue. Donc, OK, il y a le coton, mais beaucoup de matières, ça vient de Chine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait revenir ces usines ? Est-ce qu'on les recrée ?
Oui, il ne s'agit pas non plus de fermer absolument les frontières à tout ce
qui rentre. Ce qui est génial, c'est le monde du recyclage. Aujourd'hui, la plupart de ce textile est détruit ou envoyé en Afrique, et ben demain, avec le recyclage, on devrait sur place réussir à avoir une source de matière première qui nous permettra d'avoir un traitement des produits. Donc, c'est clair qu'il évoluera, parce qu'à chaque fois qu'on traite la fibre, et ben elle va diminuer de taille. Donc, on pourra en faire quelque chose qui sera légèrement différent. Mais c'est ce qu'on devrait réussir à faire. Et pour moi, ça, c'est le futur.
Oui.
Pour moi, dans mon métier d'industriel textilien, le recyclage, apprendre à parfaitement recycler. Quand on regarde nos textiles, s'il y a 10 étiquettes sur un vêtement, et bien les 10 étiquettes, c'est de la pollution. Il faut qu'on trouve un moyen de donner l'information, mais plus de la même méthode qu'avant. Donc tout ça, oui, c'est un avenir. J'y crois.
Damien, finalement, mon avant-dernière question et ma dernière question, parce qu'on veut aussi vous écouter, donc vas-y.
Alors, sur la question du sourcing et sur la question des principaux enjeux pour le lin, alors, je ne me fais pas trop de soucis, eu égard du fait que la France est quand même principal producteur de lin, sur le sourcing des acteurs français dans une chaîne de valeur complète. Le lin, c'est une pyramide inversée. C'est-à-dire que l'amont est très large et déborde très largement, pour l'instant, il faut le dire quand même sans dogmatisme, les capacités de transformation en France. Je pense que chacun l'a dit en évoquant des pourcentages. On est encore en dessous aujourd'hui pour les capacités industrielles de transformation de la fibre de lin au niveau français.
Mais avec des perspectives de croissance.
Des perspectives sur une dynamique complémentaire positive, clairement, dont on se satisfait. Mais alors, ça, c'est très bon pour le lin en général. Ça se développe en France, ça se développe aussi ailleurs. La Chine continue de développer ses capacités. D'ailleurs, je rejoins ce que dit mon voisin de gauche. La plus grande usine chinoise qui vient récemment de se créer s'est faite en Éthiopie, en filature 100% lin. Donc, on a quelque chose et qui doit embaucher, je pense, à quantité équivalente, 3 fois plus de salariés qu'une filature chinoise. Au bas mot. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Nous, l'enjeu qu'on a clairement au niveau du lin, et la principale question, c'est la capacité de produire en amont et de fournir, en termes de sourcing, l'intégralité du marché. Le lin, c'est une fibre naturelle et végétale, donc par nature, dont la production peut être aléatoire et dépend d'éléments tout à fait naturels, type la météo. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort, et notamment du marché et des confectionneurs, alors bien sûr européens, mais même asiatiques. Je prends juste un exemple pour vous donner une idée. Et je ne vais pas parler de Chine, tiens, je vais parler d'Inde pour changer un peu. Bon, la dernière fois que j'ai pu me rendre en Inde, en 2020 donc, vous promenez, vous sortez quand même des grands centres urbains, vous allez visiter des filatures indiennes qui se développent, à un niveau bien derrière la Chine, mais qui se développent. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des hangars qui sont vides, ils attendent des broches pour filer du lin et donc développer la production de lin. Vous rentrez en ville, vous allez dans une grande enseigne, par exemple Raymond, ou une enseigne qui s'appelle Linen Club, c'est-à-dire qui est intégralement sur 150 ou 200 magasins, je crois, dédié au lin, c'est-à-dire quand vous êtes un amoureux du lin, c'est l'antichambre du paradis. Il y a du lin partout, de qualité, et du European Flax. Donc ils font 100% de leur chiffre d'affaires en lin. L'angoisse, l'inquiétude de ces acteurs, c'est est-ce qu'on va nous fournir? Et nous sommes pourtant, en termes de fibres, le premier producteur mondial, mais c'est l'aléa d'une fibre naturelle, végétale et respectueuse de l'environnement, elle est aléatoire. Et c'est ça le principal enjeu.
Donc là, la croissance est au rendez-vous. Pierre, une conclusion rapide en fait sur... Parce que la façon dont la production pourrait s'organiser à l'avenir.
Alors, c'est une question que je trouve extrêmement piégeuse. J'ai trouvé toutes les réponses très intéressantes et je ne dirais pas très complètes, parce qu'en fait, chacun des points est extrêmement vrai, mais on en découvre encore tellement tous les jours, de ces opportunités qui vont faire que le curseur va bouger. Que je resterai encore beaucoup plus flou que Basile. Bien bon est celui qui sait où va s'arrêter le curseur dans des sujets qui n'ont pas été balayés et qui s'ajoutent à ceux que vous avez cités. Les habitudes de consommation changent aussi de manière drastique. On parlait du recyclage de la matière dans un certain nombre de filières, notamment les productions qu'on fait avec tissage de charlieu. On est en totalement circulaire sur du polycoton. Votre placard chez vous est un champ de coton, enfin de polycoton, c'est un peu moins propre, mais réutilisable quand même. C'est une réalité qui va à une vitesse qui s'accélère tous les jours, mais là aussi, la courbe, on ne la connaît pas, ça peut aller très vite. La seule chose qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que le potentiel est gigantesque encore, parce qu'on est tout petit, c'est pas parce qu'on est des magiciens, c'est parce qu'on est tout petit, donc le potentiel par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, il est gigantesque, il y a énormément de choses à faire. On voit qu'on n'a pas le choix, c'est dans cette direction que ça devra aller. On s'est tous un peu fait peur avec le rapport du GIEC aussi cet été, et à juste titre, il faut faire des choses. Tout le monde en a conscience, comme on dit très souvent, en avant.
The sky is the limit.
Exactement.
Et on va y aller. Donc à vous maintenant, on vous écoute. Je suis sûre que vous bouillez de et poser ensemble, des questions.
Bonjour. Ma question, elle était par rapport à... la corrélation entre l'automatisation, la création d'emplois et la formation qui va correspondre à ces métiers-là. Est-ce que tout ça, c'est bien imbriqué, surtout du niveau de la formation? Est-ce que, parce que si les industries changent leur façon de faire, mais qu'on n'a personne pour aller dans ces filières-là. Est-ce que vous savez comment s'articule la formation par rapport aux besoins des industriels ?
Bon, la formation, elle suit, ou plus exactement, l'industrie précède la formation. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un besoin, on remet en place de la formation.
Sachant que ça prend du temps.
Et ça prend du temps. Ça prend, dans notre cas, 2 à 5 années pour former une personne qui va être complètement opérationnelle. Effectivement, le danger qu'on constate dans notre industrie, vraiment typé sur le tricotage, c'est que la moyenne d'âge des opérateurs, des techniciens qui ont le savoir, est assez élevée. Et aujourd'hui, c'est la raison qui nous pousse, avec une 20aine d'autres tricoteurs, à remettre en place de la formation, parce que la réalité, c'est que dans 5 à 10 ans, une grande partie de ce savoir sera à la retraite.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a, on a fait au R3i Lab un meet-up sur justement les besoins de formation. Et il y a un manque de communication entre l'industrie et ses formateurs, c'est-à-dire des centres comme La Fabrique, par exemple, ou l'IFM pour d'autres professions, ont besoin de savoir de quel type de job, de profil, l'industrie a besoin pour pouvoir mettre en place des formations qui vont être éventuellement décentralisées, qui vont être sur les lieux de l'entité de production, ou pour vraiment s'adapter aux besoins avec des modalités très flexibles et de petite taille. Il ne s'agit pas de lancer un programme national. Donc ça, c'est une réponse, mais il faut vraiment que ce lien de communication existe et que l'industrie se tourne vers les fournisseurs d'éducation.
Moi, par rapport à mon métier industriel, à chaque fois qu'on a fait des automatismes, on les a fait avec les opérateurs. Et ça veut dire qu'il y a des gens, encore hier, il y a une personne, ou la semaine dernière, une personne qui est partie, elle avait 42 ans de maison. C'est-à-dire qu'elle a travaillé pendant 42 ans. Mais son métier, il a totalement évolué avec beaucoup d'automatisme. Et elle en a totalement fait partie à chaque fois. Il y a des gens qui sont récalcitrants, mais il y en a, en fait, on les met avec des jeunes ingénieurs qui vont arriver, les équipes de chez nous, et la machine, c'est elle-même qui participe. Et d'ailleurs, dans mes dossiers de R&D, je mets une partie de son salaire parce qu'elle a fait partie à la transformation de ces matériels au fur et à mesure. Ça veut dire que les machines dans mes usines sont essentiellement des machines qu'on a transformées. Peut-être qu'elles venaient d'un lien avec un fournisseur, mais on les a transformées pour qu'elles deviennent de plus en plus automatiques et donc elles n'existent pas sur les marchés. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est primordial, la formation. J'étais la semaine dernière avec le député de notre région à Trélon sur le dossier Refilon et je lui ai dit, monsieur le député, défendez pour notre filière du textile un crédit impôt formation. Si vous nous défendez ça, les meilleurs professeurs pour les nouveaux sont les gens qui sont en interne dans ma société. Je peux l'envoyer dans n'importe quelle école apprendre je ne sais pas quoi, ils n'apprendront pas ce qui est nécessaire pour notre filière. Donc, nous, on peut s'organiser, nous, on peut mettre en place des choses, venez nous contrôler, etc., faites ce que vous voulez, mais on le fait en interne, regardez ce qu'on fait, mais donnez-nous un crédit, impôt, formation. Donc il a dit, pas mal, bonne idée, on verra bien, je l'ai déjà dit il y a plein de fois, mais ça n'est jamais passé très loin.
Est-ce qu'il y a le ministère des Finances dans la salle ?
À votre service, en tous les cas. Ce que je reproche souvent dans notre pays, c'est qu'on ne dise pas, bah, tiens, vous avez une bonne idée, on met en place une structure, vous l'essayez pendant 5 ans, on contrôle, on regarde. Dans 5 ans, on vous dira, on laisse tomber votre truc, c'était nul, ou bien génial, et on élargit. On devrait réussir à avoir un gouvernement qui dit chiche, on essaye à tel endroit, et on le fait savoir, on communique.
Donc d'accord avec Grégory pour avoir de l'argent, ça toujours. Mais pour aborder dans ce sens-là et du côté de ceux qui développent les machines donc auxquelles Grégory fait appel et d'autres aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on développe des automatismes, on les développe comme un jeu vidéo. On pense gamification des machines, on pense accompagnement de la personne à son poste. On veut avoir un message qui lui dit « Est-ce que tu as pensé à faire ta pause ? Ce serait chouette parce que tu n'as pas vu de plante verte depuis 2 heures et franchement, ça ne doit pas être agréable. » C'est dans cet état d'esprit que les jeunes ingénieurs, les jeunes développeurs qui travaillent sur l'automatisation aujourd'hui voient les choses. Donc il ne faut pas imaginer que l'automatisation aujourd'hui est une contrainte supplémentaire qui va nécessiter une formation complexe supplémentaire. L'état d'esprit général dans lequel ça va, c'est le sens de la vie courante. C'est mon smartphone. voire ma musique préférée, et je fais quelque chose dans lequel je suis accompagné pour ne pas m'ennuyer, pas être embêté et pas faire d'erreur en même temps, parce que ça va avec.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour, Stéphanie de Grandpré, je suis consultante aujourd'hui en stratégie d'offre, ancienne directrice de l'offre. Et aujourd'hui, il y a une question qui me semble importante, qui concerne beaucoup plus la formation des équipes créatives, notamment dans le monde du retail. Je pense notamment au métier des chefs de produits, qui, selon moi, aujourd'hui, ne sont plus du tout adaptés. Je m'explique. Aujourd'hui, on travaille en marge entrée, jamais en marge sortie. On ne calcule jamais un résiduel. Et pour pouvoir travailler de la façon dont vous travaillez, messieurs, il me semble important de changer radicalement les process métiers. Voilà.
Dans le mille, vous pouvez venir travailler chez nous. On explique ça
Christine,
tous les jours.
Un commentaire.
Si vous voulez, je suis consultante, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un point qui me semble important à aborder.
Christine, tu es d'accord avec ce ressenti ?
Pour avoir travaillé avec des chefs de produits dans le passé, dans le luxe, c'est...
Excusez-moi, je parle des marges du retail. Les marges du luxe ne sont pas celles du retail.
Oui,
je pense que là, on ne peut pas boxer dans la même catégorie.
Ouais. Christine essaye de botter en touche.
Oui.
Pierre, tu voulais dire quelque chose ?
Nous, c'est notre quotidien. Globalement, ça crée d'ailleurs parfois une confusion. Notre métier, c'est bien de développer une plateforme qui permet de travailler ensemble avec l'ensemble de la filière de production. Mais ça commence, en fait, exactement là, avec le chef de produit, à se poser et à dire quelle est ta marge. Donc, tout à l'heure, j'ai lancé un petit spoiler. Est-ce qu'ils connaissent leur marge ? Non, en fait, marge de sortie, ils ne connaissent pas. Et je dirais, ce n'est même pas de leur faute. Les chiffres, ils sont inaccessibles. C'est incroyable, mais exactement, parce qu'on a le métier d'acheteur, le métier de chef de produit. Tout est saucissonné, suivant un mode qui n'est plus possible aujourd'hui, en fait. Et donc, le premier des travaux, c'est d'arriver à mettre ensemble, en général, un DAF, qui s'ennuie mortellement à parler de vêtements, mais c'est comme ça, chef de produit, voilà, enfin, je mets le DAF parce qu'il a tout à fait, et l'acheteur ou l'acheteuse, autour d'une table, et leur dire voilà notre monde, enfin voilà votre monde en fait, est-ce que vous en avez déjà vu les contours ? Et enfin, nous on n'a jamais vu que c'était le cas. Et qui plus est, ça s'explique très bien, il y a ce saucissonnage, et puis dans le retail, comme vous savez, on est quand même sur un rythme très élevé, avec une tension très élevée, une pression qui est mise sur l'ensemble des KPI, sur la marge d'entrée depuis la nuit des temps, tout le monde est câblé comme ça. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Mais ce travail, il est à faire. Il est essentiel, il est vital. Ce qu'on disait tout à l'heure, les retailers ont un long chemin à faire. Donc, c'est très bien qu'ils prennent le taureau par les cornes. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc, vous avez du travail pour un moment encore.
Et par ailleurs, il y a un deuxième sujet qui me semble important. Vous avez parlé aussi des produits qui sont à disposition, qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'avoir des showrooms diversifiés et larges. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Asie, quand on va faire nos collections, on a tout ce qu'on veut sur les Stoyac, des produits merveilleux, parce qu'ils ont tous des équipes créatives qui courent aux quatre coins du monde et qui sont au top de la tendance. Donc, il y a aussi cet enjeu. Je pense que vous êtes capable de faire des produits magnifiques, mais les moyens mis en œuvre dans ces showrooms sont aujourd'hui colossaux. Et c'est bien plus facile pour un acheteur.
Là, vous posez la question de l'identité de la marque retailer, mais je ne veux pas forcément prendre la parole... Pour mes camarades.
C'est vrai que si on reparle des marques propres pour un grand magasin, oui, actuellement, ça va être beaucoup plus facile d'aller acheter en Asie pour des questions de marge, premièrement, puisque au lieu de vendre en France, il faudrait vendre 30 euros, admettons, pour maintenir une marge, alors que le même produit acheté en Asie, il faut le vendre 10. On peut le vendre 10, donc... grossièrement. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile à l'heure actuelle d'aller acheter en Asie. Il y a un choix bien plus développé. C'est un fait.
Oui, mais je pense que le fait de changer...
Mais voilà, il faut changer oui. De paradigme. Peut-être que ça, effectivement, voilà. Ça passe aussi par la connaissance du tissu industriel français qui est insuffisante.
Oui. La réglementation.
La réglementation est un point très important, évidemment.
La bonne communication à l'intérieur de la filière et aux consommateurs pour le faire un peu rêver, un peu saliver avec du Made in France.
Je pense que c'est un point absolument clé de communiquer sur le Made in France et d'adapter sa communication, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui...
enfin, qui traditionnellement va toucher une génération un peu plus âgée et que l'avenir, c'est ces jeunes, ces Gen Z, il faut absolument réussir à leur parler et à les intéresser au sujet. Oui. Et il y a plein de passerelles pour ça, et la première, la plus évidente, étant l'éco-responsabilité.
Oui. Oui, mais on voit qu'on peut aussi agir sur le désir du consommateur, parce que je pense à l'expérience Fashion Cube du groupe Muliez, qui va sortir donc, je ne sais plus combien, 400 000 jeans par an, qui, au lieu de les vendre avec un sourcing asiatique à 40 euros, enfin à 39,99, il va les vendre à 49,99. Donc, il mise en fait sur une appétence supérieure du produit parce qu'il est made in France. Et là, on parle quand même de 30% de plus. Donc, il ne faut pas oublier ça. Le consommateur, il veut de la fabrication vertueuse, propre, qui fera mal à personne, etc. Et il est prêt même à payer un peu plus si on lui vend bien, si on lui package bien le truc. Dernier mot, Basile, puisque je vois que tu...
Non, juste pour compléter la réponse à Stéphanie, la co-construction des modèles, puisque tu parles de collection, elle est absolument essentielle. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste en interne, c'est qu'en réalité, on a co-construit les modèles qu'on fabrique avec le client. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est ce que font très, très bien des clients comme Decathlon.
Chez Decathlon, là, le projet des bonnets, les bonnets qu'on a mis en place, ils ont été faits avec 400 clients. Il y a 400 clients qui ont parlé et qui ont testé les bonnets et qui ont dit ce bonnet, oui, ce que vous avez fait comme changement est valable. Et en fait, la chef de produit, les transformations que nous avions mises avec les techniciens, c'est les clients qui l'ont poussé et qui ont fait valider. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Et je pense que maintenant, j'ai eu la certitude pendant 2 ans avec cette histoire de bonnet. Au plus les clients seront au démarrage de la création du produit, bien sûr avec toutes les équipes, et dont après les mêmes, l'ensemble des industriels, et on sera tous gagnants. On sera tous gagnants. Mais je pense que beaucoup, aujourd'hui, peut-être pas la majeure partie, mais beaucoup en sont conscients et le font. Et ils le testent au moins, ils le testent, cette méthode.
Oui.
Donc, okay. On arrive dans cette période voilà, où tout le monde fait des choses différentes.
Bon, chers tous, je crois que c'est le moment de terminer, mais pas tout à fait. Attendez, juste que je vous dise un truc important. Si vous sortez par la porte de gauche, là en bas, enfin pour vous, ça sera à droite, vous montez et quand vous arrivez au niveau supérieur, vous prenez tout de suite l'escalier qui vous permet de monter au-dessus du bar. Et là, on a un pot qui vous attend et qui vous permettra de continuer à échanger éventuellement avec nos intervenants, puisque visiblement, ils ont scotché tout le monde. Merci encore à vous de votre participation. Mille merci à vous tous.